donc le marathon des mots à Bruxelles, en Belgique et ailleurs en France. Les mots, les auteurs sont mis à l'honneur, sont mis en scène. C'est vrai qu'à l'extérieur, il y a également le marathon tout court. Il y a des pauvres coureurs sous la pluie. Nous, heureusement, on est à l'abri de la pluie grâce aux livres dans cette magnifique chambre d'écho qu'est une librairie. Et nous avons le plaisir de recevoir Marie Nimier. Marie Nimier, bonjour. Merci d'être bonjour parmi nous. Alors, comme les mots donnent de la voix au cours de ce week-end, j'ai proposé à Marie Nimier, pour débuter cette rencontre, de lire un passage que j'ai arbitrairement choisi. Donc, on va commencer par un court extrait lu, suivi de la rencontre, et on terminera également par une lecture. Donc, Marie Nimier, merci de nous donner de la voix.
Il faut juste peut-être resituer un petit peu ce passage. Au début du livre, deux petites filles vont à l'école dans une rue qui s'appelle la rue Robert-Étienne, dans le quartier des Champs-Élysées. Rue Robert-Étienne, c'est ce qui a marqué sur la plaque émaillée qu'elles voient et qu'elles apprennent à lire. Elles passent devant sans savoir la lire d'abord et ensuite elles découvrent qu'il y a marqué rue Robert-Étienne. Et en fait, cette rue, c'est pas une rue parce que c'est un petit bout de rue, puis il y a l'école où elles vont, école de filles, école de garçons. Et elles se rendent compte que, en fait, c'est une impasse. Et c'est à propos de ça, ce petit passage. Cette histoire de rue et d'impasse occupa longtemps mon esprit. L'idée que les mots ne recouvraient pas forcément les choses qu'ils désignaient, même sous leur forme la plus stable, la forme écrite, et dans un espace aussi policé que le quartier des Champs-Élysées. J'étais d'autant plus troublée par cette confusion que la maîtresse, interrogée à ce sujet, répondit à mes doutes par une pirouette qui fit rire toute la classe. Si j'en ai oublié la teneur exacte, je n'ai pas oublié la réaction des autres filles. Nous en reparlerons souvent avec Léa au lycée, plus tard encore, avec la même véhémence. On nous annonce que c'est une rue, quelque chose qui traverse, qui continue, et c'est une impasse en vérité, quelque chose qui s'interrompt brutalement. Une impasse, la vie, quelque chose qui finit. Pourquoi voulait-on nous faire croire le contraire ? Je savais déjà à l'époque que les pères n'étaient pas immortels et nos animaux, nous en avions fait l'expérience avec un cochon d'Inde, une tortue aquatique, quelques poissons rouges, vivaient beaucoup plus vite que nous et mouraient en conséquence. Mais l'amitié, que dire de notre amitié ? Que dire de l'amitié ? Et vu que je ne regarde plus mon livre, évidemment, je me laisse emporter. Et... que dire de l'amitié et de la nôtre en particulier ? Fallait-il qu'elle se termine ? Était-ce inscrit au tableau ? Autour de nous, les liens se nouaient et se dénouaient pour des raisons futiles ou sans raison du tout. C'était comme ça, d'une semaine à l'autre, les meilleures copines se tournaient le dos. Échapperions-nous à la règle ? Nous répondions que oui, haut et fort. Mais au fond, cette histoire d'impasse aidant, j'étais tentée de penser le contraire. Et c'était triste, si triste, ce doute qui s'installait déjà. Page 27.
C'est un très beau roman, un très beau portrait de l'amitié, finalement. C'est la réponse à la question que vous venez de poser. Que dire de l'amitié ? C'est votre réponse à vous, les Inséparables, qui est le titre de ce livre.
C'est-à-dire que... au moment, à la page 27, je pense que la question est justifiée. Elle se justifie jusqu'à l'avant-dernière page de savoir si les inséparables seront séparés. C'est-à-dire que quand on annonce un titre aussi rond comme ça, c'est sûr qu'il va y avoir des failles. Hein, parce qu'on a une espèce de chose très, très posée, comme ça, les inséparables, cette mythologie de ces deux oiseaux qu'on ne peut pas séparer, sinon ils vont mourir. Donc on est dans une forme presque comme dans un mythe. Et évidemment, tout le livre sera cette tension entre ces deux amies qui sont allées dans cette école, qui est dans cette impasse, savoir si elles vont aller au-delà de l'impasse, si elles vont traverser les murs.
Voilà, si elles vont traverser le temps. Il faut également dire, Marie Nimier, que ça se passe à une époque où l'Amérique faisait encore rêver. Le premier McDonald's venait de s'installer en France.
Ah, c'était une grande chose. On aimait encore ça à l'époque parce qu'on ne connaissait pas. Donc, moi, ma meilleure amie, donc, c'est le récit de deux je vais dire Ma parce que c'est la narratrice, enfin bon, c'est plus simple, la meilleure amie de la narratrice, à son premier boulot, en effet, dans le McDo des Champs-Élysées, du passage du Lido, et ou passage des Champs-Élysées. Et alors, elle s'était acheté des chaussures orthopédiques, parce qu'elle mettait les pièces de 5 francs directement dans les chaussures. Elle avait une technique comme ça, ce qui ne pourrait plus du tout se faire maintenant. Je ne vous conseille pas, enfin, s'il y a des jeunes qui travaillent chez McDo. Mais alors, c'était drôle, parce que quand je venais la chercher, elle me servait des trucs, des sacs en papier, plein de choses. Ce n'était pas très bon, mais il y en avait plein et ce n'était pas cher. Et le soir, quand elle sortait de son travail, je l'accompagnais au vestiaire et alors elle secouait ses bottes, ses chaussures. Hein. Et personne n'aurait osé, évidemment, douter d'elle, parce qu'avec des chaussures orthopédiques, personne n'aurait osé lui demander « Est-ce que vous pouvez enlever vos chaussures, mademoiselle ?»
Quoique c'est vrai qu'aujourd'hui, on le fait aux aéroports, surtout aux États-Unis, on enlève ses souliers.
Plus sérieusement, la fascination de l'Amérique, ça, c'est vrai que c'est quelque chose... Enfin, quand on était ado et tout ça, on était complètement dans la fascination de ce pays. On était bon, il y avait le cinéma américain, mais aussi ça, c'était les premiers petits copains, ils étaient américains. Les premiers voyages, ils étaient c'était aux États-Unis. Et ça semble tellement loin, quoi. Enfin, les jeunes aujourd'hui, je pense pas. Moi, mes enfants, ils veulent aller au Japon, ça fait moins rêver, oui.
Alors c'est vrai, qu'est-ce qui nous fait rêver encore aujourd'hui? C'est néanmoins le cinéma. Vous venez d'évoquer le cinéma. C'était un temps où il y avait encore des ouvreuses dans les cinémas.
Oui, je fais une espèce de portrait des ouvreuses, mais c'est plus le côté symbolique de la chose, parce que dans cette petite partie qui parle de l'enfance dans les Champs-Élysées, il y a un peu comme tous les petits personnages qui seront développés, mais développés de façon un peu tordue après. Donc, le personnage de l'ouvreuse va renvoyer directement au personnage de la prostituée rue Saint-Denis. Évidemment, c'est pas du tout un collage que je fais, mais pour les petites filles que nous étions, c'était des jeunes femmes ou des femmes bien habillées dans un costume, c'est-à-dire bien tenues, avec une voix très décidée. Et il fallait les entendre, les écouter, suivre leur direction, de s'asseoir là ou là. Elles avaient la lumière. Et surtout, à l'entracte, elles apparaissaient en bas du cinéma, des grands cinémas, avec leur panier de confiserie. Et c'était tout d'un coup des femmes qui vendaient du plaisir. Et tous les enfants dégringolaient vers elles pour aller acheter les Esquimaux. Et quand les familles restaient assises sur les fauteuils, elle se penchait comme ça pour rendre la monnaie. Et bon, c'est tous ces petits gestes de ce métier, de ces femmes qui sont payées au pourboire aussi. Cette idée-là. Bon, c'est un bon exemple de la façon dont est travaillé ce livre, c'est-à-dire avec une espèce de royaume enchanté de l'enfance, enfin un peu comme ça, pas si enchanté que ça d'ailleurs, avec beaucoup de choses un peu noires en dessous. Et puis après, comment tout ça, comment chaque petit fil est tiré jusqu'à aujourd'hui, finalement.
Et justement, Marie Nimier, pour tirer tous ces fils jusqu'à aujourd'hui, parfois ce sont les événements qu'on oublie, mais on n'oublie jamais les émotions qui sont liées aux événements. Et c'est ça qui permet de retisser ces fils quand on est à l'âge adulte et qu'on se retourne vers le passé, vers l'enfance.
Oui, c'est vrai que j'ai pas forcément. Enfin, c'est un roman. C'est-à-dire que j'avais des choses que j'aurais pu raconter qui étaient très justes, même par rapport à ce récit. Mais moi, je suis trop impressionnée par les vrais souvenirs et la réalité, etc. Donc, j'ai besoin de prendre plus la matière, et puis l'émotion, et puis après de le réinventer, peut-être dans une autre scène, un autre lieu, d'autres personnages, pour pouvoir en donner la saveur. Je suis un peu embarrassée par la réalité, enfin par le témoignage ou le récit. Je ne sais pas trop faire ça.
Mais justement, moi, je dirais que ça, c'est le talent des romanciers. Vous en avez, c'est de transcender justement la réalité, de partir d'événements que vous avez connus, mais nous les transcender justement à travers de l'émotion ou autre chose, et d'en faire une histoire universelle, parce qu'on a tous eu une meilleure amie, un meilleur ami quand on était à l'école, et puis parfois on continue de pair avec eux, et puis parfois la vie nous sépare. Donc, je dirais, c'est ça le talent d'un romancier, c'est pas de se mettre à nu, c'est pas de raconter les événements bruts. Et c'est vrai qu'il y a tout un courant dans les littératures aujourd'hui où on se met à nu, où les gens parlent dans le jeu au risque d'être nombrilistes. Je vais pas citer des noms, mais dans cette rentrée littéraire, on les connaît tous. C'est ça finalement, c'est de réinventer, d'où c'est pas un récit. Donc bien sûr, c'est votre passé, bien sûr, ça a été une de vos meilleures amies, peut-être toujours votre meilleure amie aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un roman.
Oui, bah, c'est vraiment une question d'habitude, hein, je dirais d'entraînement. C'est-à-dire que j'ai écrit pendant... Enfin, j'ai écrit huit romans avant La Reine du Silence, qui commençait la veine autobiographique. Donc, c'est ma patte, quoi. C'est ma matière, les mots. Comme là, l'histoire de l'impasse et de la rue. Je pars très, très souvent du mot même pour développer une scène. Des doubles sens, et ouais, mais mine de rien, ça c'est ma petite cuisine à moi, mais c'est vrai que je parle plutôt de ça, plutôt que d'être fidèle à une réalité ou d'être dans un récit. Quant au grand déballage que vous évoquez, il est souvent mis en avant, soit par dans les débats ou parmi les spectateurs, il y a toujours quelqu'un pour dire, et ça ne vous gêne pas de tout déballer comme ça. Moi je me sens pas trop concernée par la chose, mais je pense qu'il y a une façon de le faire. Enfin, tous les livres ne sont pas des livres de télé-réalité, quoi. Il y a quand même des degrés. Et dans cette veine de l'autofiction, c'est plus joli que déballage. Il y a des gens quand même qui ont écrit des livres formidables, comme Guibert ou même Proust. À la limite, on peut remonter. Et là, on a une filiation tout d'un coup qui, bien sûr. Et plus réconfortante pour des gens qui, comme moi, qui ont écrit déjà deux livres dans un peu de cette veine-là. On n'est pas obligé de se coller à la vision télévision, à la vision télévision de la chose.
De l'image aujourd'hui à laquelle on n'échappe pas non plus, puisqu'on est actuellement également filmé pour Filigrane TV, comme quoi le pouvoir de l'image l'emporte même ici sur le pouvoir des mots. Alors vous l'avez dit, Marie Nimier, l'importance des mots, l'importance de leur signification, et c'est vraiment transcendant également dans ce livre, puisque c'est un roman de l'apprentissage qui passe par les mots, qui passe par leur signification, leur réalité à vivre ou pas. Et comme c'est vrai que c'est un roman qui grandit avec les personnages. Il y a des périodes dans la vie où peut-être les mots, on les connaît, mais on ne connaît pas leur signification, leur véritable réalité.
Oui, et puis je pense que ça parle de cette... Enfin, en tout cas, le début de cette... et le petit extrait que j'ai lu, de cet endroit de l'enfance où on comprend que le mot ne recouvre pas exactement la chose. Et c'est comme la première grande déception. Enfin, il y a peut-être le doudou. Avant, on se rend compte que le doudou, c'est pas le corps. Que la mère n'est pas... qu'on ne fait pas partie de cette même chair. Il y a cette première séparation. Et puis après, enfin, en tout cas pour moi, et je me souviens bien, c'est cette séparation, c'est le doute par rapport aux mots. Et surtout en français, dans la langue française, où il y a beaucoup d'homonymes. Donc on peut entendre quelque chose et entendre autre chose en prononçant les mêmes sons. Et de cette espèce d'impression de faille et de douleur de la petite enfance, parce que j'étais peut-être particulièrement entourée de mots et de livres, et de gens qui fonctionnaient très bien avec les mots, mais qui ne disaient pas forcément la vérité, ou qui avaient des façons de le dire très tortueuses. J'ai ressenti une espèce d'appréhension par rapport à la parole en général. Et un doute par rapport aux mots. Je pense que c'est longtemps, je suis restée en silence. Je n'ai pas couché de bonheur, mais je suis restée en silence. Et maintenant, ben voilà, comme quand on grandit, les peurs deviennent des moteurs. Hein. Les peurs deviennent des boucliers, mais aussi des moteurs. Et au lieu de m'enfermer dans cette impression que le monde est toujours un monde trompeur, que le monde des mots est un monde trompeur, je me réapproprie cette gymnastique et j'en fais mon travail. Voilà.
Alors justement, quand on se réapproprie ce travail, est-ce qu'on écrit pour comprendre le fonctionnement des êtres humains ?
Oui, c'est un peu prétentieux, mais évidemment, c'est quand même ça qui me meut
dans tous les sens du terme.
Je suis normande, donc voilà, il fallait que je le place. Et à chaque fois que je dis un petit me meut pour penser aux vaches. Non, j'essaye de dévier parce que je trouve que la question est embarrassante. Et évidemment, on a des ambitions, mais on est toujours quand même... fait ce qu'on peut, hein. On écrit ce qu'on arrive à capter du monde. Là, en l'occurrence, il y a un petit peu un projet qui est un petit peu différent, qui est un peu générationnel, c'est-à-dire cette impression d'être quand même né à un endroit et arriver à un autre endroit et d'avoir traversé certaines choses que des gens qui sont nés 30 ans plus tard n'ont pas traversées. Mais ça, c'est tout nouveau. Enfin, avant de l'écrire, je ne me rendais absolument pas compte. Une espèce d'indifférence, on met ça, tout ça dans le même panier. Puis tout d'un coup, on se rend compte que non. Que ben, quand on était petit, c'était pas pareil. Et qu'il y a vraiment des choses qui ont changé. Bon, là ça, tout se passe à Paris. Donc, c'est une espèce de métaphore de la ville qui a changé avec les corps des petites filles qui deviennent des adolescentes puis des adultes. Donc, j'ai essayé à travers l'espace public et l'espace privé, disons, enfin, de jouer sur ces deux éléments et pour faire une espèce de portrait d'une génération aussi. Donc là, on est un tout petit peu moins dans l'histoire d'amitié, des rapports, de qu'est-ce qui se passe, pourquoi ces deux filles, dont une deviendra prostituée et sera très solidement attachée à la drogue pendant toute sa vie. Et l'autre, la narratrice, voilà, qui sera à côté, mais sans plonger, mais quand même toujours à côté. Comment ces deux-là restent ensemble, ça c'est une des questions, c'est ce que vous dites, comment on peut raconter ça. Mais il y a aussi l'aspect plus politique, je dirais, même s'il n'est pas très apparent, mais qui pour moi m'a conduit et m'a intéressée, vraiment.
Deux univers féminins complètement différents. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser la question comment ces deux filles, ces deux femmes vont pouvoir avoir une amitié, avec la question de savoir quelle est cette amitié. Alors, Marie Nimier, c'est vrai que peut-être un lien qui les lie, justement, qui les unit, c'est aussi un aspect du livre, c'est l'absence des pères.
Oui, enfin, ça, c'est réglé en une phrase, mais c'est ce qu'on peut dire.
Pauvre papa.
Non, parce qu'il y a eu un autre livre sur le papa, donc voilà, chaque livre a son sujet. Là, c'est vraiment axé sur les filles. Mais à un moment, oui, on dit, voilà, les deux, elle a une histoire de père très étrange, puisque son père a pris l'identité d'un soldat mort italien. Il venait de l'Est et pour rentrer en Italie, il a récupéré une plaque sur un soldat mort pendant la guerre. Et il s'est appelé comme ce soldat. Et ça, cet ami l'a appris très tard. Hein. Évidemment, on ne l'apprend pas petit, ça. Donc, on ne le savait pas quand on était petite. Mais enfin, voilà, elle porte quand même le nom de ce soldat. Et par rapport à mon destin, c'est... Bon, moi, mon père est mort quand j'étais petite aussi. Et sa référence, c'était beaucoup... Ce monde militaire n'était pas étranger pour lui. Donc, il y a quelque chose, peut-être, qui nous initiait là, sans qu'on le sache. Mmh. Mais après, c'est quand même de la psychanalyse de... le supermarché, quoi. Là, de dire ça. Mais enfin, c'est la réalité. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je ne dis pas forcément dans le livre, mais qui est la réalité. Alors, après, je pense qu'elle avait une envie de comprendre le monde et une vitalité, quelque chose qui est complètement fascinante et qui fait que c'est mon ami.
Alors revenons-en au livre Marie Nimier. Est-ce que c'est volé que de prendre des livres qui pourrissent dans une cave?
Notre enfance a été parsemée de petits larcins, n'est-ce pas? Nous avons évoqué les pièces de 5 francs du McDo. Et
maintenant, on passe au livre. C'est une belle question.
Est-ce
que c'est voler ou sauver des livres qui sont abandonnés dans les caves?
Ça, c'est une scène totalement inventée, mais il y avait dans les sous-sols, il y avait des caves qui se rejoignaient. Donc ça, on allait, en se faisant des frayeurs entre filles, passer d'une cave à l'autre dans ce quartier des Champs-Élysées. Et c'est tout ce monde souterrain qu'on découvrait. Et une scène dans le livre où les petites filles remontent avec deux caisses de livres qu'elles ont trouvées dans une cave. Et à ce moment-là, il se trouve qu'il y a le beau-père qui passe sur sa Triumph Bonneville, parce qu'il est américain. Et il dit, mais les petits rats, qu'est-ce que c'est que ces caisses de livres? Il faut aller le remettre tout de suite. Et nous, après, entamé une réflexion sur, oui, mais ces livres, ils étaient dans la cave, personne ne les voyait, donc ce qu'on veut faire, c'est les sauver. Et il y a une grosse discussion là-dessus. Comment, alors, si on les partage, on va les séparer. Donc, c'est une bibliothèque qui va être séparée. Donc, c'est pas juste non plus. L'idée du beau-père, c'est d'aller les vendre dans une bouquinerie. Et puis, avec cet argent, d'acheter au moins des livres qui nous intéressent, nous. Parce que comme ça, on va vraiment avoir des livres qui nous intéressent. Et ceux-là vont être adoptés par d'autres gens qui vont être intéressés par ces livres. Finalement, c'est la solution qui sera... retenu d'aller les vendre.
Voilà, les livres sont toujours vendus à toutes les époques. Alors, au niveau des mots et de leur signification, on peut aussi résumer une partie du livre par ceci. Les crocodiles grandissent toute leur vie, Marie Nimier.
Oui, est-ce que je dis d'où ça vient cette phrase? Je ne sais plus, c'est un proverbe qui vient de quelque part ou...
Oui, mais je ne me souviens plus non plus, je vous avoue. J'ai retenu les mots et pas leur origine, parce que je trouvais ça tellement...
Les crocodiles grandissent, oui, parce qu'on a tellement l'impression que c'est déjà un animal préhistorique, le crocodile, même à sa naissance. Un crocodile, ça a déjà des millénaires. Enfin, c'est comme ça que cet animal m'apparaît, en tout cas. Avec cette grosse peau et ses gros yeux comme ça. Et j'aimais bien cette idée. Et c'est vrai, hein, les crocodiles grandissent toute leur vie. Enfin, je veux dire, ça, c'est un truc de naturaliste. Ils grandissent toute leur vie. Donc, que cet animal préhistorique, enfin, je ne sais pas si préhistorique, mais enfin, en tout cas, qu'il est ancien, continue sa croissance, je trouvais ça assez beau comme idée.
Un peu, c'est le beau symbole aussi des êtres humains, puisqu'on grandit aussi tous les jours par rapport aux événements qui nous arrivent. Et petit à petit, on essaye de mettre du sens justement dans ce qui peut apparaître, le chaos. Et c'est vrai que quand on est écrivain, les mots, ce sont des belles bouées de sauvetage, je dirais, pour donner du sens aux choses, au chaos parfois, ou aux événements plus douloureux, ou heureux également, pour laisser une trace.
Oui, et puis tout simplement une espèce de réponse au rythme effréné du monde, de notre société en tout cas. Je pense que c'est une façon de prendre un peu du temps. C'est une façon de rentrer dans un autre rythme, qui est un rythme totalement anti-présent.
Et aussi peut-être justement retrouver la part d'humanité qui nous manque souvent aujourd'hui, parce que c'est un très beau roman sur l'humanité. D'ailleurs, les deux protagonistes, les deux filles, elles voulaient être humanistes. Bon, c'est vrai, l'une voulait éventuellement être psychiatre ou vétérinaire, l'autre clown, mais avant
Les deux voulaient être vétérinaires.
Les deux. Enfin, oui. Et surtout, elle va être humaniste, donc c'est aussi un beau roman.
Oui, c'est ça, c'était la grande découverte de ce mot vers, je sais pas, 9 ans, 10 ans. Après vétérinaire, ouais, il y avait clown et puis il y avait psychiatre et puis humaniste. Alors on a commencé, on trouvait ça super chouette, humaniste, parce qu'on pouvait le faire tout de suite. Donc on était là à l'affût d'aider des personnes âgées à traverser la rue. Il y en avait pas mal dans ce quartier des Champs-Élysées. On volait des petites choses pour pouvoir donner aux mendiants, aux clochards, qui ne s'appelaient pas encore des SDF, devant l'église Saint-Philippe-du-Roule. Enfin, on s'était fait toute une petite mission comme ça. Mais c'était toujours un petit business, hein, quand même. C'est-à-dire qu'on était humaniste, mais on avait un sens des réalités assez aigu et le sens de monter des affaires. Donc, on volait aux riches pour donner aux pauvres. En gros, on était assez habité par cette idée. Jusqu'à l'âge de 13 ans à peu près, où tout s'écroule en fait. Où tout s'écroule parce que tous ces petits gestes nous paraissent totalement ridicules. Voilà, par exemple, on voulait dormir la fenêtre ouverte, on dormait souvent chez l'une chez l'autre, mais parce qu'on trouvait pas ça normal que nous d'être dans une chambre chauffée et que d'autres dorment dehors. Alors on ouvrait la fenêtre, alors on mangeait pas avec les fourchettes, parce que ça faisait bourgeois, enfin des trucs très militants, n'est-ce pas? Complètement inefficace et inintéressant finalement. Enfin, c'est comme ça que ça nous est apparu. Et c'était là aussi, c'était la deuxième faille après la faille des mots qui ne recouvrent pas ce qu'il le sens et la forme se séparent. Là, on a un regard très 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 cynique finalement des adolescentes sur les petites filles humanistes qui sont là avec leurs étoiles dans les yeux et qui pensent qu'elles vont réussir à changer le monde. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que le monde, on va pas réussir à le changer. Mmh. Et là, ça commence, c'est le tunnel qui commence. Quoi. C'est vraiment le tunnel, vraiment le tunnel.
Et que parfois, malheureusement, c'est le monde qui nous change. Alors, vous l'avez dit, vous avez cité par exemple les clochards il y a quelques instants. Est-ce qu'on peut vivre dans une ville qui met dehors les gens modestes finalement et qui mettent des bibliothèques à la poubelle également? C'est pas une belle part de notre humanité.
Bah, on vit tous dans des villes comme ça, on est dans une ville comme ça, Paris est une ville comme ça. Bon. Oui, on peut vivre, on le fait.
Tout dépend de la signification et du sens qu'on donne à la vie. Alors Marie Nimier, qui décide de la fin d'un roman? Est-ce que c'est l'auteur ou est-ce les personnages?
Oui, c'est vrai que ce roman aurait pu continuer encore. Il y avait encore pas mal de choses à raconter. Alors moi, je sais pas, je fais toujours des plans, je suis très organisée, je suis assez scolaire, hein, je suis assez sage dans ma préparation des romans. Après, je me laisse aller dans une espèce d'improvisation, mais dans toute la préparation, c'est assez sage. Et il y avait une partie supplémentaire qui était une partie sur le sida. Et les deux, enfin il y en avait une qui atterrissait à l'hôpital, il y avait toutes les maladies, etc., etc. Puis j'ai pas eu envie de le faire, quoi. Là tout d'un coup, ça me semblait encore un autre livre, hein. Encore un autre livre. Donc voilà, ça c'est, je l'ai bouclé finalement. Ça se termine en une page, je sais pas comment dire. On avance. Puis j'ai l'impression que c'est vraiment juste la dernière page qui fait que ça se termine vraiment. Il y a une vraie fin, mais. Ouverte.
Et on prendra rendez-vous alors pour le prochain livre également. Comme ça, on verra de quoi il s'agit. Alors, c'est vrai qu'on a commencé par une lecture. On peut peut-être également terminer par une lecture. Là, je vais vous laisser choisir le passage que vous avez envie de lire. Et ensuite, n'hésitez pas à venir rencontrer Marie Nimier, vous faire dédicacer son livre, qui est un très beau livre, touchant, plein d'humanité, d'une belle écriture. Je vais vous tenir le micro, je vais meubler Marie Nimier. Qu'est-ce que je pourrais encore dire, hein, les mots. Donc voilà, on va vivre un instant de solitude, comme quand on va au cinéma seul. Finalement, c'est très triste, paraît-il. C'est pas moi qui le dis, c'est Alain Delon, et vous le citez dans le livre.
Il s'était peut-être passé quelque chose la veille, ou alors. Cette question, j'avais attendu longtemps avant de la poser, comme si elle ne me regardait pas. Ou alors. Tu avais bu, avalé, fumé quelque chose? Non. Rien bu, rien avalé, rien fumé. Léa prenait son air buté. Je n'obtiendrai rien d'elle que ce qu'elle m'a déjà dit 100 fois. Il y avait une meringue, tout tranquillement posée dans un coin du cerveau pendant 13 ans. Et soudain, elle s'était mise à gonfler et ça n'avait plus tenu, ça ne tenait plus. Ça s'effritait contre les parois de la boîte crânienne. Ça ne respectait plus le contrat du blanc à la commissure des lèvres, des grains de sucre sous les paupières. Sans arrêt, sans répit, la meringue grossissait. Elle grinçait en s'écrasant contre les os, comme si tu étais obligé de réfléchir sur tout, tout le temps. Il n'y avait pas de dimanche.
Merci Marie Nimier.